Et ben nous allons reparler de musée justement. Et je vais demander à Geneviève Vidal et Benjamin Hervy de nous rejoindre et de valorisation cette fois-ci d'un autre type de patrimoine. On va changer là encore puisqu'il va s'agir de maquettes architecturales. Donc je vous laisse vous installer peut-être
Oui.
aussi,
Alors,
reprendre
oui.
votre.
Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer encore. Donc
Merci, voilà.
rapidement, oui, rapidement, vous présentez pourquoi Benjamin Hervy de l'École centrale de Nantes va vous présenter donc ce développement, en sachant que l'École centrale de Nantes, pour le laboratoire de Benjamin, travaille sur la modélisation et la simulation du patrimoine. Donc là, il s'agit de valorisation du patrimoine à partir de cette expertise, et nous avons établi une collaboration dans le cadre pour travailler sur une évaluation critique des usages justement de ce patrimoine. Et en particulier à partir des usages d'application. Alors, on va le voir dans un deuxième temps. Il y a un premier temps, justement, c'est une forme d'application, mais Benjamin va l'exposer. Donc, c'est un cas hein, avec le plan relief donc, de Nantes, Nantes 1900, avec le château des Ducs de Bretagne, le musée d'histoire de Nantes. Et plus largement, donc, on vient de terminer une étude de terrain. C'est en train de se terminer, donc je vais vous présenter quelques premiers résultats d'usage d'application en relation avec le patrimoine et donc d'autres natures. Donc cette collaboration nous permet donc d'avoir cette approche grâce à l'École centrale donc de la modélisation à partir donc d'études qualitatives d'usage d'application de façon plus large que le cas présenté par Benjamin.
Merci, bonjour à tous. Alors je dirais nous dans la présentation parce que j'inclurai Florent Laroche qui est maître de conférence à l'École centrale de Nantes. Donc à la base, on est des ingénieurs, on a un profil ingénieur, mais dans le cadre de nos travaux de recherche, on est rattaché au centre François Viette de l'Université de Nantes, donc centre de recherche en épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Et donc du coup, on travaille principalement sur des objets du patrimoine, technique industrielle essentiellement. Et sur la question de la capitalisation des connaissances, la reconstitution virtuelle et physique parfois, pour la conservation et la valorisation de ces objets. Donc ici, je vais présenter un des projets sur lesquels on a travaillé, avec le Musée d'Histoire de Nantes, et qui illustre assez bien la complexité des données auxquelles on est confronté et l'intérêt des outils numériques, tels qu'on les a utilisés pour la gestion des documents historiques liés à un objet de musée. Alors, le contexte en fait de ce projet, c'est qu'en 2008, le musée d'histoire de Nantes s'est intéressé aux possibilités de valorisation d'une maquette que le musée a dans ses collections, qui est la maquette du port de Nantes en 1900, donc qui est une maquette qui a été réalisée en 1899 par Pierre-Auguste Duchesne, et qui était une commande de la Chambre de commerce de Nantes pour valoriser l'activité portuaire et industrielle de Nantes lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris. Donc c'est une maquette qui est imposante, elle fait 9 mètres de large par 9 mètres de long par 2 mètres de large, et elle représente environ un peu moins de 10 km² du port de Nantes à l'échelle 1/500. Et donc en 2008, s'est posée la question de la valorisation de cet objet, qui est un bel outil de compréhension du patrimoine, qui s'inscrit dans le parcours, dans l'exposition permanente du musée. Ce qui est dommage, en fait, ce qui était dommage et ce qui a mené à la mise en place de ce projet, c'était qu'elle est sous vitrine et qu'aucune information n'est disponible, hormis le cartel habituel d'une dizaine de lignes sur cet objet. Donc, au lieu de faire un projet habituel de conception d'une interface de médiation, le musée a lancé un projet de recherche pour éviter les écueils qu'ils avaient eus sur d'autres projets, notamment un projet qui s'appelle Nantes en 1757, et pour lequel la dépendance à la technologie était très forte, et donc tout le contenu, tout le travail qui avait été mis en œuvre par les conservateurs et les historiens pour la création du contenu historique n'est plus réutilisable, et donc il y a un volume de travail et d'argent qui est perdu, et tout un volume de connaissances qui est perdu. Donc là, c'était vraiment l'objectif du projet, c'était vraiment de mettre en place une nouvelle méthodologie de conception de ces interfaces. Et donc c'est pour ça qu'on a travaillé donc depuis 2008 en partenariat donc avec l'Université de Nantes, avec des historiens, les conservateurs du musée, les équipes de médiation du musée et nous à l'école centrale sur une nouvelle méthode de gestion de ces documents historiques pour aboutir à des interfaces de médiation donc avec un dispositif qui sera inauguré normalement début du mois prochain, donc début juillet. Donc un dispositif de réalité augmentée sur la maquette dont je parlerai tout à l'heure. Alors, voilà. Donc la méthodologie, elle a commencé tout d'abord par la numérisation 3D, par des campagnes de numérisation 3D de l'objet. Donc on voit en haut à gauche, pour rappel. Donc le résultat de cette numérisation 3D, c'est un modèle 3D extrêmement précis au niveau de la topologie, avec l'équivalent d'un point tous les 30 cm si on était à taille réelle, si on était à l'échelle du port dans la vraie vie. Donc c'est à l'époque, en 2008, et encore, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, ce type de maillage virtuel, c'est équivalent à ceux de l'industrie aéronautique. Et donc à l'époque, c'est très difficile de traiter ce type d'outils. Et donc pour pallier à ces lourdeurs, on a mis en place, on a travaillé sur une autre maquette des collections du musée, qui est la maquette du quartier Saint-Simonien, qui est un quartier de Nantes, et qui est estimée qui date à peu près de la même époque, sa réalisation date à peu près de la même époque, et qui a été faite par le même maquettiste. Donc ça nous a permis de travailler sur un volume de données un peu moins important pour à la fois valider les hypothèses de travail, et surtout pour concevoir un démonstrateur qui nous a permis de faire des évaluations auprès du public, notamment. Donc, cette numérisation 3D, en fait, elle nous permet d'avoir une représentation virtuelle de l'objet, qui est plus facile à manipuler avec les outils informatiques, et qui nous permet d'y raccrocher, d'y associer du contenu historique, et de mettre en lien, en fait, toutes les informations numériques, virtuelles, avec l'objet réel qui est présent dans le musée. Et en parallèle, alors c'est un peu annexe, mais c'est pas négligeable, ça a permis, ce type d'approche a permis d'initier des recherches en informatique sur le traitement de ces objets, le traitement de ces modèles 3D si particuliers, qui sont assez significatifs et caractéristiques des objets du patrimoine. C'est très différent des modèles 3D actuels qui sont relativement parfaits et qui sont générés depuis zéro, en fait, le plus souvent. Donc ça permet d'étudier des possibilités de recalage, par exemple, pour comprendre l'objet, faire du géoréférencement de certains éléments par rapport à la ville réelle, par exemple. Alors, donc ensuite, en parallèle de la numérisation 3D, l'objectif, c'était de concevoir, donc j'ai dit, un système ouvert pour la gestion des connaissances historiques associées à cet objet. Alors, on avait déjà travaillé sur des projets d'études d'objets du patrimoine technique, la machine à laver le sel du musée de Basse-sur-Mer, par exemple, peut-être pour ceux qui connaissent, la cintreuse à membrure à la Ciotat. Il y avait déjà des travaux de recherche qui avaient été menés pour la mise en place d'une méthode formalisée qui permettrait d'assister la capitalisation des connaissances, enfin de ce type de connaissances associées à des objets de musée. Donc c'était la thèse de Florent Laroche en 2007. Et donc on s'est appuyé sur ces travaux pour concevoir un outil informatisé qui serve à la fois aux professionnels du musée, mais également à la valorisation de l'objet de musée vis-à-vis des visiteurs. Et donc plusieurs campagnes de recherche ont été menées par les historiens, de 2008 à 2015, pour constituer un corpus de documents historiques à partir des archives du musée, des archives municipales, départementales et de fonds privés, de certains fonds privés. Et donc on a rassemblé comme ça plus d'un millier de documents iconographiques, plusieurs centaines de sources écrites, et ce qui a permis aux historiens de rédiger des monographies sur environ 300 points d'intérêt de la maquette du port de Nantes. Et donc, comme je le disais, on a travaillé également en parallèle sur la maquette du quartier Saint-Siménien. On a effectué la même démarche, et donc de manière similaire, avec une trentaine de points d'intérêt. Donc, étant donné que la maquette est faite 1 mètre carré, 1 mètre sur 1 mètre en gros, voilà, on n'avait que 30 points d'intérêt sur lesquels travailler, ce qui nous a permis de pas être... disons, submergé par la quantité de données à manipuler dans un prime abord. Et donc, on a mis en relation ça, différents points d'intérêt de la maquette et donc du territoire, des éléments physiques qui sont présents sur la maquette, des bâtiments, des rues, des quais, le pont transbordeur de Nantes, par exemple, qui est présent sur la maquette du port de Nantes, des entités historiques, comme les entreprises d'époque, ou des personnes, et puis des informations thématiques qui sont intéressantes lorsqu'on considère le territoire, voilà, le travail ouvrier au début du XXe siècle, l'hygiène, etc. Et donc chaque élément s'est vu attribuer une analyse historique, donc une monographie rédigée par les historiens, ainsi qu'un court texte de médiation, c'est-à-dire qu'on a fait comme ça une passe de traitement par les équipes de musée, puisqu'évidemment le texte, l'analyse historique ne correspondait pas à un objectif de médiation, c'est pas du tout les mêmes cibles en fait, le même objectif. Et donc on a comme ça une base de validation qui permet aux équipes de médiation du musée de reprendre le texte et d'avoir un discours qui soit cohérent avec le parcours muséographique. Et enfin, on y associe à tous ces éléments des contenus iconographiques, des éléments du modèle 3D, et les liens en fait, entre les éléments sont générés de manière semi-automatique par l'analyse du texte, par des co-occurrences de mots-clés, etc. Et donc ça a permis de constituer un système pertinent pour la conservation, donc le service de conservation du musée, mais également pour les historiens. Tous ces éléments ont permis de constituer un dispositif muséographique, évolutif et participatif. Alors, donc, on a abouti en fait à ce qu'on appelle une base de connaissances qui était dédiée de prime abord à un objet muséographique, mais on s'est rendu compte que ça dépassait le cadre initial, le cadre muséal initial. Alors évidemment, les interfaces qu'on a conçues, elles sont principalement dédiées aux équipes du musée et aux visiteurs. Mais on a conçu, la méthodologie a permis de concevoir un outil sur lequel d'autres modes d'exploration, d'autres interfaces puissent se greffer et explorer et permettre d'explorer le contenu avec des lectures complémentaires, avec d'autres approches. Donc par exemple pour les historiens, donc ce projet et la méthodologie qu'on a mis en place ont permis d'envisager de nouvelles méthodes complémentaires pour la construction du récit historique par exemple. Ils se sont rendus compte que la mise en relation des informations les unes avec les autres permettait d'avoir des lectures complémentaires, de détecter des zones d'ombre ou de détecter des incohérences dans l'interprétation, etc. Et finalement, ça crée comme ça, je reprends les mots des historiens avec lesquels on a travaillé, ça crée un peu un effet de surprise auquel ils ne s'attendaient pas au début. Donc, finalement, on permet de retracer, par exemple, l'évolution dans le temps d'un bâtiment, d'un quartier, d'étudier les flux de matière ou de personnes, et ça permet également une analyse critique de l'outil, mais également du contenu. Donc, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir ajouter de nouvelles informations dans le futur, parce que là, on a fait une campagne de recherche sur certains points d'intérêt, mais bien évidemment, on n'a pas pu mener des recherches approfondi sur chaque élément, et puis il y a des éléments sur lesquels on n'a pas encore d'informations. Donc l'idée, c'est d'ajouter des niveaux de détail sur certains éléments, soit directement d'ajouter des informations sur des éléments pour lesquels on n'a pas d'informations. Alors en termes d'interface, donc on a des interfaces qui sont plutôt dédiées au monde de la conservation, donc des interfaces de saisie, de modération, de validation, qui seront accessibles sur Internet et qui vont permettre différents niveaux d'accès, et donc qui vont permettre par exemple aux visiteurs du musée ou aux Nantais de venir enrichir les contenus en mettant à disposition donc, des contenus dont ils sont détenteurs, par exemple des cartes postales ou des photographies, etc. Donc on a également conçu donc, un dispositif muséographique qui était vraiment la commande du musée pour mettre en valeur et accéder à l'ensemble des informations relatives à la maquette du port de Nantes. Et puis on travaille également à d'autres formes d'interaction et de visualisation en utilisant des outils de réalité virtuelle, par exemple. Donc on procède comme ça à une phase exploratoire d'identification de l'intérêt de certaines technologies vis-à-vis de la manipulation et de l'interaction avec ces données qui sont hétérogènes et qui sont très complexes à identifier. Alors, en ce qui concerne le dispositif muséographique, en fait, on a alors vous pourrez voir, on a une vidéo sur le site internet, je vous donnerai l'adresse du site internet juste après, une vidéo qui montre un peu comment le système fonctionne. Donc l'idée, c'est d'avoir un écran tactile devant la maquette. Donc là, on en voit un pour la grande maquette du port. Il y aura trois grands écrans tactiles disposés de manière répartie devant la maquette. Et les visiteurs peuvent naviguer sur une interface, donc sur l'interface tactile par le biais d'une photographie haute définition de la maquette qu'ils ont devant eux. Donc c'est une reproduction fidèle qui a été faite par photogrammétrie. Et donc ils peuvent naviguer comme ça dans le territoire avec un phénomène de sérendipité où donc ils peuvent accéder à n'importe quel élément, n'importe quelle zone d'intérêt. Le système va leur afficher l'ensemble des contenus qui sont disponibles, et donc ils vont pouvoir naviguer de manière complètement indépendante, de manière non forcée, je dirais, au sein des contenus. Donc on ne privilégie pas un contenu par rapport à un autre, ou un type de contenu par rapport à un autre. J'entendais ça dans la présentation tout à l'heure. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est de ne pas mettre en avant une analyse textuelle, mais mettre au même plan les contenus iconographiques, les analyses, les textes de médiation, etc. Donc on a un système de connexion entre l'objet physique et, on va dire, l'objet virtuel qui est réalisé par le modèle 3D, justement le modèle 3D numérisé, et donc qui va permettre, avec un système de vidéoprojection, de mettre en valeur l'objet qu'ils ont devant eux et de bien garder le lien entre le visiteur et l'objet qu'il contemple. On a un système donc, qui permet, comme j'ai dit, de s'enrichir avec de nouveaux contenus. Donc les interfaces seront mises à jour si de nouveaux contenus sont intégrés dans la base de données. Et donc on a mené plusieurs séances d'évaluation auprès du public. Donc ce qui nous a permis, alors c'est pas mon métier, donc je donnerai que quelques éléments. Notamment, on s'est rendu compte que ça permettait d'avoir une meilleure compréhension de l'objet pour les visiteurs. Il y avait vraiment un intérêt de la vidéoprojection pour garder le lien avec l'objet. Et encore une fois, comme je disais, il y a un intérêt de la non-distinction entre les différents contenus pour laisser la navigation libre. Voilà, il n'y a pas de parcours forcé. Et sur les aspects on a détecté des aspects, je veux dire, d'émulation collective, c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'outil semble casser certaines barrières où les gens, tout d'un coup, qui ne se connaissent pas, se mettent à naviguer, à utiliser l'outil de manière collaborative et à échanger sur leurs connaissances, leurs différentes connaissances de l'objet. Ça peut soulever d'autres questions, notamment la question de la possibilité d'enregistrer son parcours dans l'outil. Bon, ça, c'est des questions qui sont sans doute menées par les équipes du musée. Et la suite, je pense que c'est intéressant de l'aborder, c'est la possibilité d'intégrer de nouveaux travaux, donc assister l'indexation et valoriser le travail des historiens. Par exemple, on a eu un travail de Master 2 en histoire des techniques sur les Halalstom, donc en fait qui sont un hall de construction mécanique qui est présent sur donc le, ce que j'ai appelé B, qui est présent sur la maquette. Et donc tout d'un coup, on se retrouve avec un niveau de détail beaucoup plus important sur un point particulier. Et donc voilà, l'idée c'est maintenant c'est de travailler à l'amélioration, l'intégration de ces nouveaux contenus, de pouvoir naviguer à différents niveaux de détail, avoir un contexte général sur certains aspects de l'histoire du port, et puis tout d'un coup, de pouvoir rentrer comme ça sur un objet en particulier. On a aussi travaillé sur le pont transbordeur de Nantes, qu'on a reconstitué virtuellement à partir des plans des ingénieurs de l'époque et puis des plans de maintenance. Voilà, autre point, ça va être la dimension participative. Je sais que une des problématiques du musée, notamment, ça va être de s'interroger sur la question de la collecte virtuelle en ligne, notamment sur, on en parlait tout à l'heure, vous en parliez tout à l'heure, la question des licences. Quelle dimension de propriété intellectuelle vis-à-vis des contenus qui sont présents et de la possibilité et des nouveaux contenus qui vont être intégrés. Et puis donc la question de l'appropriation par les Nantais, l'idée c'est vraiment d'avoir un dispositif qui permette aux habitants de s'approprier leur patrimoine. Et puis enfin, notre objectif à nous, l'idée c'est de proposer de nouveaux modes de médiation, donc de faire de la réalité augmentée dans la ville par exemple, de pouvoir voir le pont transbordeur au sein de mon travail cet été. Le pont transbordeur tel qu'il était à l'époque, puisqu'il a été détruit en 1957, donc sur les quais, lorsqu'on se trouvera sur les quais de Nantes, et puis d'aller comme ça vers une prolongation de la visite hors les murs du musée.
Voilà. Nous avons le temps peut-être pour une question, pour pas trop décaler pour le déjeuner. Est-ce que une réaction, une question? Oui. Okay.
C'était sur l'arrière-plan culturel, philosophique, idéologique de ces maquettes. Est-ce que vous en êtes conscient? Qu'est-ce que vous en faites? Parce que ce sont des formes d'utopie industrielle. Il y a une fonction de valorisation, dont vous avez parlé à propos de l'Expo 1900. Et vous faites quoi par rapport à B? Est-ce que vous faites la même chose? Est-ce que vous créez une distance, un écart? Est-ce que vous faites appel à des logiciels d'urbanistes, par exemple, qui sont dans la planification et la gestion par au-dessus, qui sont parfois critiqués par des architectes qui sont pour eux dans l'ancrage contextuel et dans le sol. Enfin voilà, tous les enjeux en fait sont engagés par le point de vue visuel et philosophique de la maquette. Comment vous les traitez, comment vous les rencontrez?
C'est une bonne question. Disons que nous, le point sur lequel on se concentre, c'est vraiment l'association, l'utilisation de la maquette en tant que représentation comme support d'accès au territoire. Voilà, support d'accès aux différentes archives qui sont disponibles, aux différents documents. Voilà, on s'en sert, je dirais seulement, mais pas que, comme un objet de lecture. Alors peut-être que j'ai mal compris la question, mais pour la partie du musée, en tout cas, voilà, c'est vraiment un objet d'illustration de la volonté de l'époque, donc économique et politique, de mettre en avant l'activité industrielle. Aujourd'hui, donc voilà, dans le parcours du musée, elle se retrouve dans le parcours. Une ville industrielle d'ailleurs, donc c'est vraiment voilà, pour mettre en avant cet aspect. Pour nous, pour le dispositif, c'est vraiment un support de lecture comme on pourrait en avoir d'autres. On a après on pourrait imaginer un plan tout simplement, on viendrait superposer les informations dessus. En fait, c'est vraiment dans le parcours du musée, il se trouve que voilà, cet objet est magnifique et il est monumental. Et voilà, on s'en sert comme point d'entrée, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que, je dirais, dans la partie immergée de l'iceberg, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de mettre en corrélation tous les documents, toutes les possibilités d'interprétation et les niveaux de lecture sur ce qu'était le port de Nantes. Voilà, nous c'est plutôt cette partie-là qui nous intéresse. Voilà, ouais.
Merci bien. On va, voilà, on va s'en tenir là, mais c'est frustration, mais c'est l'objet d'une journée d'études de toute façon. Donc nous allons prendre le temps de déjeuner. Alors j'attire votre attention sur le fait que la journée va continuer à 14h30 dans un autre lieu. C'est Béton Salon qui se trouve donc sur l'esplanade, ici, avec entrée sur l'esplanade. Et nous allons avoir une visite guidée d'une exposition qui a un rapport avec notre sujet, bien entendu. Et puis, vous voyez qu'on est dans la continuité avec cette notion d'exposition. C'est l'exposition de Mariam Jaffry qui a réutilisé des archives pour en faire un travail artistique, parce que c'est aussi un des usages du patrimoine, c'est cet usage artistique. Donc à 14h30, à Béton Salon, et puis ensuite retour ici à 15h15 pour la suite des interventions. À tout à l'heure.